主啊，主，hier, donc j'avais, je donnais un cours pour le CTS, et un des étudiants m'avait posé la question, pasteur, c'est quoi la bénédiction? Alors, m'est venu à l'esprit tout de suite ce passage dans Éphésiens, chapitre 1er. Et donc, j'aimerais partager avec vous sur les bénédictions. Je vous invite donc à lire avec moi Éphésiens, chapitre 1er, les 19 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. La bénédiction. Je me rappelle, quelques temps avant de venir ici en Belgique, il y avait une campagne d'évangélisation dans ma ville. C'était un évangéliste qui était venu, et vraiment Dieu a opéré des miracles au travers de cet homme. Il y avait des aveugles qui voyaient, des malades qui étaient guéris. Tous les miracles qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, eh bien, s'accomplissaient. Et Donc cette campagne avait duré une semaine. Et puis le dernier jour, cet évangéliste avait visité notre église. Et donc lorsque la campagne était terminée, tout le monde était parti de l'église. C'était ma responsabilité de fermer l'église. Tout le monde était parti. Il y avait une grande porte principale qui donnait sur une rue. Et puis, il y a une petite porte latérale, comme ici, par exemple, que je devais fermer. Donc, l'église se trouvait à l'angle de deux rues. Donc, une rue devant comme ça, et puis une rue à côté. Donc, j'avais fermé la grande porte, et puis, il restait la petite porte latérale que je devais fermer. Et je me rappelle, c'était un matin, je pense que c'était un samedi matin, et tout le monde était parti, et j'essayais de fermer la porte. Je tourne la clé, et ça ne veut pas fermer. Et c'est à ce moment-là que je vois quelqu'un qui courait vers moi. Attends, ne ferme pas. Et il a dit, c'est un pasteur qui avait oublié sa Bible dans l'église. Il a dit, j'ai oublié ma Bible dans l'église. J'ai dit, ok, d'accord. Vous pouvez entrer, prendre la Bible. Il est allé prendre sa Bible. Et puis, à peine qu'il est sorti, qu'il avait pris sa Bible, j'ai fermé la porte. La porte s'est fermée. Et je lui ai dit, ah, pasteur, vous avez beaucoup de chance. Parce que ça fait 5 minutes que j'essaye de fermer la porte, que je n'arrivais pas à fermer la porte jusqu'à ce que, eh bien, vous arriviez. Et là, ce pasteur m'a appris une leçon qui m'est restée. Il a dit, un chrétien, frère, n'a pas de chance. Un chrétien est béni. Il dit, un chrétien n'a pas de chance, mais un chrétien est béni. Et effectivement, bien souvent, nous courons après la chance sans réaliser toutes les bénédictions que Dieu a déversées dans nos vies. Dieu, en effet, a déversé beaucoup de bénédictions dans nos vies. J'aimerais, avant de continuer, vous raconter cette anecdote aussi du fermier chinois avec son fils, son cheval et aussi la malchance. Il y avait donc dans un village un fermier qui avait un fils unique et qui avait aussi un cheval unique. À un moment donné, ce cheval est parti. Et alors tous les villageois sont venus consoler le fermier. Oh, pauvre fermier, le seul cheval que tu avais, le voilà parti. Et il disait, quelle malchance. Et le fermier de dire, comment pouvez-vous dire que c'est de la malchance? Comment est-ce que vous savez que c'est de la malchance? Quelques jours après, voilà que le cheval qui était parti revient maintenant avec une cohorte de chevaux sauvages. Donc maintenant, il n'avait pas qu'un cheval, il avait beaucoup de chevaux. Et donc tous les villageois sont venus cette fois-ci le féliciter. Ah, quelle chance! Et le fermier de dire, comment savez-vous que c'était de la chance? Quelques jours plus tard, voilà que le fils, donc du fermier, essayait de dompter un de ses chevaux sauvages. Et voilà qu'il tombe et il a eu une jambe cassée. Les villageois sont venus à nouveau pour plaindre notre homme. Ah, quelle malchance! Ton fils a une jambe cassée. Et il dit, comment savez-vous que c'est de la malchance? Et puis, quelques temps après, voilà que qu'il y a une guerre dans cette région. On vient chercher tous les jeunes costauds, bien valides pour aller à la guerre. Mais comme le fils du fermier, eh bien, avait une jambe cassée, il ne pouvait pas aller à la guerre. Et les autres sont venus le féliciter, disant, ah, quelle chance. Et là, il dit, comment savez-vous que c'est de la chance? Vous voyez, on peut continuer à l'infini de voir comment. Eh bien, c'est que une situation qui peut paraître comme une malchance peut être en réalité une bénédiction cachée. Tout donc dans la vie est une question de perception ou de perspective. Ça dépend comment, eh bien, nous percevons les choses. Trop souvent donc, nous sommes aveugles aux bénédictions divines dans nos vies parce que nous percevons les choses non pas à la manière de Dieu, mais à la manière du monde. Nous passons notre temps à nous plaindre et nous manquons de gratitude envers notre Seigneur parce qu'implicitement ou explicitement, nous considérons les bénédictions uniquement du point de vue matériel. Et lorsqu'on parle de bénédiction, on pense immédiatement ou on fait référence immédiatement au troupeau de bétail d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous disant comment ils étaient bénis parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux, beaucoup de richesses. On peut inclure même Job dedans. Or, la bénédiction, c'est plus que des choses matérielles. Plus que des choses matérielles de ce monde. Et donc aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous, examiner avec vous ce passage que nous avons lu de l'apôtre Paul, où il dit ici, bien, dans verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De bénédictions spirituelles. Et là, Paul va citer quelques-unes de ces bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais cette liste comprend certaines des bénédictions essentielles que Dieu nous a accordées. Par exemple, le verset 3 et 4, il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La première bénédiction dont il est fait mention ici, c'est que nous sommes élus avant la fondation du monde. Pour moi, cela, c'est extraordinaire. Être élu, qu'est-ce que ça veut dire être élu? Qu'est-ce que cela implique? Être élu, pour moi, cela veut dire que j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Que je ne suis pas oublié et que je compte pour lui, et cela me parle aussi de dignité. Donc, ma vie a de la valeur s'il a pris la peine de m'élire, c'est-à-dire de me choisir. Et être élu, sans même faire campagne, si on peut ainsi s'exprimer. Et cela, avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour moi, cela implique que ce choix de Dieu, ce n'est pas, en deuxième analyse, ce n'est pas un deuxième choix, ce n'est pas un dernier choix de la part de Dieu, puisqu'il l'a fait avant même ma naissance, avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce qu'il n'a trouvé personne qu'il m'a choisi. Non, mais de son propre gré, il m'a choisi. Cela me rappelle lorsque j'étais donc au collège biblique, au séminaire théologique, pendant toutes les années où j'étais étudiant là-bas, j'avais travaillé comme bibliothécaire. C'est ce que je faisais. Donc chaque étudiant normalement à l'école biblique était obligé de donner quelques heures par semaine pour le campus. Hein, ceux-là qui habitaient sur le campus devaient faire 5 heures, devaient donner 5 heures, et ceux qui vivaient hors campus devaient donner 2 heures de leur temps. Donc moi, en plus de mes 5 heures, je faisais des heures supplémentaires, bien sûr, pour m'aider à payer mes études. Et donc une des tâches que j'avais, c'était de travailler à la bibliothèque. Et ayant donc travaillé à la bibliothèque, j'avais compris très bien le fonctionnement de la bibliothèque. Et comme je travaillais à la bibliothèque non seulement pendant l'année, même pendant les vacances, puisque à l'époque je ne pouvais pas voyager, chez moi était très loin, donc je restais sur place au séminaire, et je travaillais à la bibliothèque, entre autres. Et à un moment donné, au séminaire, il y avait une vieille dame qui était la bibliothécaire en chef. Mais c'était une missionnaire, c'était une dame américaine. À un moment donné, son médecin lui a dit, écoute, tu ne peux plus continuer à travailler, tu dois rentrer à la maison. Et c'était pendant les vacances. Voilà donc que l'école se trouvait dans une situation où il n'y avait plus de bibliothécaire. Et c'est ainsi que le doyen académique a fait appel à moi. Comme j'avais travaillé à la bibliothèque pendant 3 ans, il a dit, ah, Martin, est-ce que tu aimerais t'occuper de la bibliothèque? J'étais très content puisque c'était ma dernière année et ça me permettait de faire encore plus d'heures pour payer mes études. Je dis, bien sûr. J'étais un peu flatté du fait que le doyen académique a pensé à moi pour être bibliothécaire. Mais dans cette situation, pourquoi est-ce qu'il a pensé à moi? C'est parce que j'étais le dernier recours. Il n'a pas pensé à moi au préalable. Hein, puisque l'autre partait et qu'il a regardé partout, il n'y avait personne d'autre, donc j'étais le dernier recours. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu ne pense pas à nous simplement, ah, il n'y a personne qui est là, donc je te prends. Non, Dieu, il a dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Pour moi, ça c'est extraordinaire. Maintenant, lorsque Dieu nous choisit, ce n'est pas pour faire non plus la grosse tête de dire qu'on est supérieur aux autres, qu'on est plus extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on est super sympa, super intelligent, super sage, super beau, etc. Mais tout simplement parce qu'il nous aime. C'est ainsi que parfois les gens posent la question, mais pourquoi Israël? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël? Mais Dieu a répondu à cette question. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Peut-être quelqu'un vous posera aussi la question et vous pouvez aussi leur donner ce passage. Deutéronome 7, verset 7. Est-ce que Dieu fait du parti pris? Est-ce qu'il fait du favoritisme? Pourquoi cela et pas d'autres? Et on va voir la réponse de Dieu. Il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Écoutez bien, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. En d'autres termes, ce n'est pas par nos propres mérites que Dieu nous choisit, mais il nous choisit tout simplement par amour, par pur amour. Et donc c'est extraordinaire de savoir que Dieu, avant la fondation du monde, il nous a élus tout simplement par amour, tout, parce qu'il nous aime. Et donc nous n'avons pas à faire quelque chose pour mériter son amour. Il nous aime tout simplement. Maintenant nous allons agir comme il faut, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a choisis, parce que nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter son caractère. Voici donc la première bénédiction. Dieu m'a élu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 7, nous lisons Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La deuxième bénédiction ici mentionnée, c'est nous avons été rachetés et pardonnés. Rédemption signifie racheter. Qu'est-ce que ça veut dire racheter? Eh bien, c'est prenez la situation où il y a un esclave qui ne peut pas payer sa liberté. Alors quelqu'un vient et paye une rançon pour racheter cet esclave, pour donner à cet esclave sa liberté. Et donc nous avons été rachetés par Jésus, par son sang. Nous venons de célébrer la Sainte Cène, hein? Le sang de Christ a coulé pour nous racheter. Donc Christ nous a rachetés des griffes du diable, il nous a rachetés du péché. Avant nous étions esclaves du diable, esclaves du péché, et Jésus par son sang, eh bien, nous a rachetés. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous ne sommes plus sous la malédiction des ancêtres, mais nous avons été rachetés. Et donc à ce rachat-là est lié une autre bénédiction qui est nous avons été pardonnés, ou il est question de la rémission des péchés. La rémission des péchés, ça veut dire nous avons été pardonnés. Dieu a effacé nos péchés par Jésus. Le sang de Christ qui a coulé, eh bien, a effacé nos péchés. Romains 8, versets 33 et 34, nous lisons ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ nous rachète et ensuite, il nous pardonne nos péchés. C'est aussi l'autre illustration, c'est comme nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. Et Christ a payé cette dette pour nous. Donc désormais, eh bien, Dieu, il nous voit à travers Christ. Il nous voit saints et irrépréhensibles. C'est pourquoi Paul pouvait utiliser ce langage. Au verset 4, il dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. » Bien sûr, lorsque nous examinons notre vie, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas purs, irréprochables. Mais, par le sang de Christ, eh bien, qui nous purifie, eh bien, Dieu nous voit au travers de lunettes de Christ, et donc il nous voit saints, purs et irrépréhensibles. Il y a l'évangéliste Bonke qui raconte cette histoire que j'aimerais vous raconter. C'est l'histoire d'un employé, d'un ouvrier au restaurant. Donc, ce bonhomme travaillait à la cuisine. Et alors, de temps en temps, cet homme faisait aussi des heures supplémentaires. Mais parfois, il demandait à son collègue de faire pour lui les heures supplémentaires. Et ça se passait ainsi. Il partait et son collègue faisait ses heures supplémentaires. Mais un jour, à un moment donné, cet homme a été tenté et il a volé un poulet dans le restaurant. Et à ce moment-là, l'autre collègue, sachant que l'autre qui avait volé un poulet, il commence maintenant à lui faire du chantage. Et maintenant, c'est à lui, chaque fois qu'il voulait prendre congé, il disait à son collègue, « Est-ce que tu veux bien faire mes heures supplémentaires ?» L'autre accepte un moment, mais après, il est fatigué, il dit, « Écoute, non, je ne peux plus faire d'heures supplémentaires pour toi. » Et quand il disait cela, l'autre disait, « Tu te rappelles du poulet ?» Et ainsi, jour après jour, semaine après semaine, l'autre est fatigué, « Tu te rappelles du poulet ?» Et cet homme n'en pouvait plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, « Bon, je suis fatigué, je vais régler la chose une fois pour toutes avec mon patron. » Et sans rien dire à l'autre, il est allé voir le patron. Il a dit, si le patron me vire, eh bien qu'il me vire, et puis c'est fini tout ça. Alors il est allé vers le patron. Il a dit au patron, « Patron, je m'excuse, il y a tel moment donné, donc il y avait un poulet qui a été volé, bien c'est moi. Si tu veux me virer, tu peux me virer, et si tu veux que je paye le poulet, eh bien je vais travailler pour rembourser le poulet. » Et le patron a dit, j'admire ta sincérité. Eh bien, puisque tu as confessé que c'est toi qui l'as fait et que tu as eu le courage de venir jusqu'à moi, on oublie cela. Ok? Donc, maintenant, on ne recommence plus, mais donc voilà, c'est fini. Puisque je vois que tu es un homme honnête, tu peux continuer à travailler. Alors, il retourne à son poste, il travaille. Le week-end arrive, l'autre dit, écoute, tu veux faire mes heures supplémentaires? L'autre dit, non, pas question. Il dit, ah, tu te rappelles du poulet? Il dit, oui, je me rappelle du poulet. L'autre dit, eh bien, je vais le dire au patron. Il dit, tu peux aller dire ça au patron. J'ai déjà réglé la chose avec le patron. Et donc, la même chose pour nous aussi. Lorsque Satan vient pour nous faire chantage, il dit, rappelle-toi, nous pouvons dire Christ m'a déjà pardonné. Amen. Christ m'a déjà pardonné. Christ m'a déjà lavé. Christ m'a déjà purifié. Et donc voilà, quelle bénédiction que Christ nous a pardonné. Quelle bénédiction que Christ, que Dieu nous a choisi en Christ, que Dieu nous a racheté en Christ, que Dieu nous a purifié, pardonné en Christ. Il y a cette autre histoire, un petit garçon à qui son père avait donné un bateau. Et le petit garçon aimait bien ce bateau-là. Et un jour, ils sont allés se promener. Et tout près d'un ruisseau, le garçon jouait avec son petit bateau. Mais tout d'un coup, comme ça, le bateau a été emporté par le ruisseau. Et le garçon qui pleurait, il avait perdu son bateau. Le garçon était inconsolable. Finalement, le garçon a oublié tout ça. Il a gardé cette petite tristesse, ce petit chagrin au cœur, mais bon, c'était fait. Et puis un jour, il se promenait en rue comme ça, le petit garçon et son père, et en se promenant, il voit à travers la vitrine un petit bateau qui ressemblait étrangement au sien. Et alors, le petit garçon dit à son père, « Oh, papa, regarde, c'est mon bateau. » Et le papa dit, « Mais comment est-ce que tu sais c'est ton bateau ?» Il dit, « Non, c'est mon bateau. Entrons dans le magasin. » Et ils entrent dans la boutique et ils demandent au propriétaire de regarder le bateau. Et ils regardent, ils examinent bien. Et le père se rend compte que, effectivement, c'était le bateau du petit garçon. Alors le petit garçon dit au propriétaire, « Rends-moi mon bateau, rends-moi mon bateau, donne-moi mon bateau. » Le bonhomme dit, « Désolé, moi je l'ai acheté. J'ai acheté ce bateau. Je ne peux pas vous le rendre. » Et le père, comme il voulait faire plaisir donc à son fils, il a payé à nouveau le bateau pour son fils. Et alors le garçon était content et il sortait. Il sortait du magasin. Et dehors, le petit garçon regardait bien, admirait bien son petit bateau. Il dit, ah, tu vois, tu m'appartiens deux fois. Parce que mon père t'a acheté et mon père t'a racheté. Nous aussi. Dieu nous a créés et il nous a rachetés. Quelle bénédiction. Troisième bénédiction que nous voyons dans ce passage, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Après nous avoir choisis ou élus, après nous avoir rachetés et pardonnés, Dieu nous a adoptés. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Adopter, qu'est-ce que cela implique pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous ne sommes plus sans famille, que nous ne sommes plus étrangers, mais maintenant nous appartenons à la famille de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté Haïti, j'avais quitté toute ma famille, j'avais quitté tout derrière moi. Et puis j'arrive en Belgique. Et j'étais tellement content de voir que Dieu m'a donné une nouvelle famille. Et comme je racontais aux frères hier, avant de quitter Haïti, donc j'étais très jeune, et Dieu m'a donné un rêve. Je n'avais jamais encore vu la neige. Mais dans ce rêve, j'ai vu la neige. Et je voyais quelqu'un qui mettait un manteau sur moi. J'arrive ici, j'étais arrivé avec mes vêtements d'été, puisqu'en Haïti il n'y a que l'été. Et voilà que quelques temps après, donc j'étais arrivé en septembre, hein, donc c'était encore plus ou moins, c'était pas encore trop froid. Et quelques temps après, il y a un couple qui m'a pris, qui m'a amené au magasin, et qui m'a habillé pour l'hiver. J'ai dit, gloire à Dieu. Et là, je me suis souvenu du rêve que j'avais fait. Ah, j'ai dit, vraiment, le Seigneur prend soin de moi. Et puis, quelques temps après, un autre frère m'amène dans un autre magasin pour chaussures pour me donner des chaussures d'hiver. Dieu, il nous adopte. Et comme il l'a dit à Pierre qui dit, « Maître, nous avons tout abandonné pour te suivre. Que nous arrivera-t-il ? » Et le Seigneur dit, « Eh bien, tous ceux-là qui ont quitté père, mère, mari, épouse, etc., eh bien, Dieu va leur donner au centuple. » Dans cette vie-ci, et aussi, ils auront la bénédiction dans la vie éternelle, avec, bien sûr, persécution, etc. Ils auront des problèmes. Donc, Dieu, c'est vrai que dans cette vie-ci, nous aurons des problèmes, des difficultés, mais Dieu nous adopte dans sa famille et il nous donne non seulement une nouvelle vie, mais il nous donne aussi une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Jésus, il a brisé le mur de séparation qui nous séparait avec Dieu et aussi le mur de séparation qui nous séparait les uns des autres. Et je me rappelle chaque fois que je voyageais par la suite, que ce soit dans n'importe quel pays, comme j'ai été en Bulgarie, Roumanie et ailleurs, où on ne parlait pas la même langue, malgré que on ne parlait pas la même langue, je pouvais sentir l'amour du Seigneur. Je dis, C'est extraordinaire de servir le Seigneur. Il nous donne vraiment une nouvelle famille. Donc, quelle bénédiction! Le Seigneur nous adopte. Non seulement il nous a rachetés, il ne s'est pas contenté de simplement nous donner notre liberté et de dire, ok, maintenant tu es libre. Ben, il dit, viens chez moi. Viens chez moi. Et adopter signifie aussi, donc, fils et fille. Enfant. Qui dit enfant, dit aussi héritier. Héritier du royaume de Dieu. Dans Matthieu 25, 34, Matthieu 25, 34, nous pouvons lire ceci. Et alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, dès la fondation du monde, Dieu nous avait préparé son royaume. Il nous a adoptés et nous sommes héritiers. Et dans ce passage aussi, si nous revenons encore à Éphésiens, il est dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous avons reçu le cachet du Saint-Esprit. Donc, c'est le cachet d'authenticité. Hein, en Belgique, chaque fois que vous devez régler certains papiers, on vous demande d'authentifier les documents. Et donc, le cachet d'authentification, pour nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en nous est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Et par le Saint-Esprit, nous crions « Abba, Père ». Abba qui signifie papa. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que la présence de Dieu est dans nos vies. Scellés par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons la protection divine. Tout ça, ce sont des bénédictions. La présence de Dieu, la protection divine. Cela veut dire aussi que Dieu nous a fait entrer dans son intimité. Nous avons été illuminés, éclairés par sa parole. Verset 9, Éphésiens 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu nous fait connaître le mystère. Il nous révèle son caractère. Il nous révèle son plan. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et c'est pourquoi je vous appelle ami. Quelle bénédiction! Dieu nous fait entrer dans son intimité. Dieu a appelé Abraham ami. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, bannissons la crainte et l'inquiétude. Vivons dans la sérénité et la certitude et l'assurance. Voilà donc toute une série de bénédictions que Dieu nous accorde. Donc, cessons d'envisager les choses comme le monde, mais ayons le regard de Christ. Comme c'est écrit dans Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc soyons renouvelés dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Cessons de considérer nos contrariétés, nos défis, comme des malchances, mais comme des opportunités pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. Pharaon était derrière. Ils n'avaient nulle part où aller. Et alors ils ont commencé par se plaindre auprès de Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as amenés dans ce lieu désert pour mourir. Mais Moïse leur a dit, ne vous inquiétez pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous les voyez. Parce que Dieu va intervenir pour vous. Demeurez en silence et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. S'il n'y avait pas eu la mer Rouge, il n'y aurait pas ce grand miracle extraordinaire qui est répété sans cesse dans les psaumes. Dans la parole de Dieu, c'est le plus grand miracle dans l'Ancien Testament. Et le plus grand miracle dans le Nouveau Testament, c'est la croix. Donc la mort et la résurrection de Christ, la résurrection. Et pour qu'il y ait la résurrection, il a fallu qu'il y ait la croix. Et donc à la croix, Satan pensait avoir remporté sa plus grande victoire, tuer le Messie. Et lorsque Jésus était là sur la croix, les autres se moquaient. Il a délivré les autres, mais il ne peut pas se délivrer. Mais Jésus, il est mort et il est ressuscité. La plus grande défaite a été transformée en la plus grande victoire. Donc ne fixons pas nos regards sur les choses matérielles et passagères de ce monde. Soyons positifs et reconnaissons nos privilèges en Christ. Et donnons gloire à notre Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien, qui change le mal en bien en notre faveur. Suivons l'exemple de David qui disait au psaume 103, versets 1 à 5, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il va citer quelques bienfaits, quelques bénédictions. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Encore une bénédiction. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Encore une bénédiction. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et donc, David passe en revue toutes les belles choses, les bonnes choses que l'Éternel a fait pour lui. Et donc, David pouvait être plein de confiance. C'est pour ça que David pouvait affronter Goliath. Parce qu'il se rappelait toutes les bonnes choses que Dieu avait fait pour lui. Il disait au géant, « Le Dieu qui m'a aidé à terrasser le lion et l'ours m'aidera aussi à te terrasser. » Pour terminer, donc mes bien-aimés, nous ne sommes pas malchanceux, mais nous sommes bénis en Christ. Et en plus de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pour cela, rendons gloire au Seigneur en toutes circonstances. Il y a Daniel Defoe qui a raconté l'histoire de Robinson Crusoe. Alors, lorsque Crusoe arrive, donc a échoué sur l'île déserte, il a fait deux listes, ou si vous voulez, une liste à deux colonnes. Dans une colonne, il écrivait, eh bien, ses problèmes. Et sur l'autre colonne, il écrivait ses bénédictions. Il disait d'un côté, je n'ai plus de vêtements. Je n'ai plus de vêtements. Mais de l'autre, eh bien, il fait chaud sur l'île, donc j'en ai pas vraiment besoin. D'un côté, toutes les provisions ont été perdues dans le naufrage. Mais de l'autre, eh bien, sur l'île, il y a beaucoup de fruits, il y a de l'eau, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ainsi, dans chaque aspect négatif, il y a aussi un aspect positif. Alors, voyons les choses du bon côté, du côté de Dieu. Que Dieu nous donne ses lunettes afin que nous puissions considérer chaque circonstance à travers les lunettes de Dieu. Non, nous ne sommes pas malchanceux, mais Dieu est de notre côté. Je me rappelle lorsque j'étais adolescent, quand j'étais donc à l'école, je pensais que j'étais vraiment malchanceux. Parce que les autres pouvaient faire toutes sortes de bêtises, ils n'étaient jamais attrapés. Mais moi, quand je faisais la moindre bêtise, j'étais tout de suite attrapé. Je disais, mais c'est pas possible. Mais avec le temps, j'ai réalisé, en fait, c'était la main de Dieu qui était sur moi, qui me protégeait. Peut-être que je serais devenu un délinquant comme certains de mes camarades. Et donc, j'avais le sceau de Dieu sur moi qui m'inculquait sa crainte. C'est l'amour de Dieu qui se manifestait au travers de ces choses-là. Et je vous donne juste un exemple. Donc à l'époque, la dernière heure de classe, c'était une heure qu'on appelait une heure d'étude. C'est-à-dire, c'est le moment où on devait faire ses devoirs. Et là, il n'y avait pas de prof dans la salle. Il y avait juste un surveillant qui circulait entre les classes. Et à un moment donné, on devait faire un devoir de maths. Et certains ont copié sur celui qui était en général le premier de la classe. Et moi, je voulais être sérieux, donc honnête, en faisant mon devoir, j'ai fait mon calcul et voilà, j'avais mon résultat. Et il y avait certains autres qui disaient, Martin, écoute, un tel a déjà fait le calcul, hein, tous les autres ont copié. ont copié, tu n'as qu'à copier. Et puis c'est bon. J'avais déjà fait mon calcul, c'était bon, mais sous la pression des autres, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai changé ce que j'avais écrit et j'ai pris la feuille. Et deux malheurs sont arrivés à ce moment-là. Au moment où on me passait la feuille, c'est à ce moment-là que le surveillant est entré dans la classe. Donc les autres avaient pu faire leur truc, mais moi, c'est au moment où on me passe la feuille qu'il entre et qu'il m'attrape. Moi, j'avais écrit mon nom sur ma feuille, l'autre n'avait pas écrit son nom sur la feuille. Et donc, je me suis fait taper dessus, j'ai été pris en flagrant délit, donc voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans la semaine, lorsque le prof devait corriger les problèmes et il a fait la démonstration au tableau, c'est moi qui avais raison, j'avais bien fait mon calcul et j'ai mis de côté mon bon calcul pour prendre le calcul de l'autre, donc ce qui fait que j'ai pris une mauvaise solution et ensuite je me suis fait surprendre. Et je peux dire, ah, vraiment, j'avais de la malchance. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a appris à part là? Donc, de ne pas se laisser influencer. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai appris, donc, voilà, de ne pas se laisser influencer par les autres. Et donc, d'être toujours honnête. Et donc, ce que je considérais comme la malchance, mais c'est la main de Dieu qui me protégeait pour être toujours honnête. Pour ne pas se laisser influencer par les autres, en fait, finalement, c'était une bénédiction. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas malchanceux, mais nous sommes bénis. Que le Seigneur nous aide à lui rendre gloire en toutes circonstances, à faire comme David, mon âme, bénis l'Éternel. Et Paul dit, rendez grâce au Seigneur en toutes choses et en toutes circonstances. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que nos vies sont entre tes mains. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui pourvois tous nos besoins. Seigneur, je te prie pour chacun de mes bien-aimés ici présents ce matin, quelles que soient les difficultés que chacun puisse connaître, qu'ils puissent voir que tu ne les as pas oubliés, mais que ta main est là. Et c'est toi qui changes les temps et les circonstances, et c'est toi qui changes le mal en bien. Et Seigneur Dieu, tu es là pour nous bénir, pour nous conduire, pour nous donner la victoire. Merci Seigneur de nous visiter tout un chacun et que nous puissions avoir tes pensées, Seigneur Dieu. Oui Seigneur, renouvelle notre intelligence ce matin, renouvelle nos pensées ce matin et que nous puissions reconnaître que tu es un Dieu bon et que tu ne fais pas d'erreur, mais que tu es toujours là pour nous délivrer, pour nous faire du bien. Merci de ce que tu nous as choisi avant la fondation du monde. Merci de ce que tu nous as racheté. Tu nous as purifié. Tu nous as lavé. Tu nous as adopté dans ta famille. Tu nous as scellé par le sceau de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur Dieu, nous portons ta marque dans nos vies, Seigneur Dieu. Et cette marque nous protège des attaques, des assauts de l'ennemi. Nous, oui, Seigneur, que nous puissions refléter ta gloire chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. S'il y a quelques-uns qui veulent prier aussi, sentez-vous libre de prier le Seigneur et de remercier le Seigneur pour ses bienfaits.